Vous attendez ce rendez-vous toutes les semaines avec impatience. Je veux parler de la sélection de livres proposés par Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Et nous débutons avec vous Christelle.
Avec plaisir, comme chaque semaine. Alors moi je vais commencer avec un récit qui m'a complètement emportée, qui m'a fascinée et qui m'a aussi beaucoup émue et parfois mis en colère. Alors, ça s'appelle « La fille qui chantait à l'oreille des bisons » de Kent Nerburn aux éditions du Sonneur. Alors, comme je disais, un récit sous forme d'enquête, sous forme de recherche historique de la part de l'auteur Kent Nerburn, qui est universitaire et qui travaille ou a travaillé avec ses étudiants sur les peuples autochtones d'Amérique du Nord, peuples amérindiens. En l'occurrence, ici, il s'agit des Lakota et des Ojibwe. Alors, tout commence avec un rêve de l'auteur, un rêve qui l'entraîne à nouveau sur la petite sœur de Dan, son vieil ami Lakota. Cette petite sœur, qui s'appelle Yellowbird, a disparu il y a très longtemps, à une époque sombre, où les politiques gouvernementales américaines, nord-américaines, d'ailleurs aussi bien des États-Unis que du Canada, effaçaient toute trace de l'identité autochtone. Et cette petite Yellowbird, elle a donc été enlevée, arrachée à sa famille et envoyée non pas dans un pensionnat, ce qui était déjà horrible, mais dans un asile pour indiens. Alors avec ce nouveau récit, c'est un vrai road trip que nous propose l'auteur. Un voyage géographique et un voyage mémoriel, un voyage au-delà des frontières de la rationalité blanche et occidentale, mais je peux vous l'assurer, un voyage que vous n'oublierez pas tant les personnes rencontrées, toutes les personnes qui jalonnent ce voyage et qui sont rencontrées par l'auteur sont autant d'échos et d'héritiers et de voix de ces peuples autochtones. C'est donc un voyage au cœur d'une autre Amérique, celle des natives, qui éclaire une fois encore un pan d'histoire, me semble-t-il, peu connu, même si effectivement de plus en plus la littérature de ce côté-ci de l'Atlantique nous apporte des éclairages de plus en plus précis. Alors avec ce récit, encore une fois c'est un récit, pas un roman, l'auteur met aussi le doigt sur les conditions de vie actuelles des Lakota et des Ojibwe. Et vous constaterez que souvent, ces conditions sont extrêmement précaires. Et pour terminer, quand même une mention particulière également à la plume de l'auteur que je découvre avec ce récit. Il en a fait d'autres que j'invite évidemment nos auditrices et auditeurs aussi à découvrir, mais une plume vraiment précise, concise et puis parfois poétique. Ou en tout cas qui nous permet effectivement de nous transporter dans une rationalité qui n'est pas forcément la nôtre. Et je peux vous assurer qu'il y a un final qui est incroyable dans ce récit. Donc la fille qui chantait à l'oreille des bisons avec une magnifique couverture d'ailleurs, une photo de bison dans la neige, magnifique. Donc la fille qui chantait à l'oreille des bisons de Kent Nerburn aux éditions du Sonneur.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors là, je vous parle d'un roman qui est sorti il y a quelques jours, une semaine ou 10 jours, et qui est vraiment un grand bonheur de retrouver un auteur. Donc, je vais vous parler de La jeune fille et la mère, le dernier roman de David Van aux éditions Gallmeister. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai retrouvé avec un immense plaisir David Van, qui est un auteur, qui est l'auteur du notamment très remarqué premier roman Sequan Island, qu'il avait publié il y a 15 ans. Tout juste, aux éditions Gallmeister, et qui avait été pour moi et pour beaucoup une lecture particulièrement marquante et même un véritable choc à la fois littéraire et émotionnel. Et là, dans ce nouveau roman, j'allais dire, on retrouve la même veine que Sequan Island. Alors, difficile toujours de parler d'un roman, il ne faut pas trop en divulgâcher, hein, comme disent nos amis canadiens, donc je vais quand même en parler, mais il faut que je sois très prudent. L'histoire donc de ce roman, La jeune fille et la mère, nous conte donc l'histoire de Aika. C'est une jeune femme philippine de 21 ans qui vit sur une petite île et qui est plutôt assez pauvre avec sa famille. Et elle croit trouver son salut et surtout échapper à son sort et à la pauvreté lorsque débarque sur cette île un Américain originaire de Californie qui fait le tour du monde en voilier et qui fait une escale sur l'île des Philippines. Il lui propose de monter sur son bateau et elle accepte cette proposition avec elle des étoiles dans les yeux. Elle pense trouver l'amour, pouvoir se marier et avoir un enfant. Le problème, c'est qu'ils vont se retrouver tous les deux en pleine mer sur un voilier et commence alors un terrible huis clos entre ces deux personnages. Alors, un huis clos assez étouffant et malsain, parce que vous pouvez vous douter quand même que les deux personnages n'ont pas du tout les mêmes plans et n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Et ils ont, au fur et à mesure des pages, on découvre, ils ont en fait chacun un plan assez redoutable l'un pour l'autre. Donc, à ce moment-là, ce roman bascule dans une fuite en avant absolument terrible que vous lisez véritablement en apnée. C'est pas parce que ça se passe à la surface de l'eau et quelquefois ça se passe sous l'eau, mais vraiment, je vous assure, vous lisez des pages en vous demandant où est-ce que va vous emmener David Van, qui est vraiment un maître pour vraiment vous faire sentir cette tension entre ces deux personnages sur un voilier. Alors, l'écriture, moi je la trouve, on retrouve l'écriture de David Van et c'est ce que j'aime chez lui, c'est une écriture crue et directe, hein. Il n'y a pas de fioritures, hein. C'est vraiment une écriture très directe au service d'une histoire qui est bien entendu terrible, mais qui reste quand même, et c'est là son grand talent, haletante jusqu'à la dernière page. Et lisez le livre jusqu'à la dernière page parce que vraiment on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, donc. Pour résumer, j'allais dire, pour les personnes qui connaissent, vous allez retrouver David Van. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, précipitez-vous et découvrez cet auteur parce que vraiment, je vous assure, c'est un véritable maître pour nous remuer. Hein. Je ne dis pas que c'est un roman confortable. Hein. David Van, ce n'est pas une lecture confortable. C'est vraiment, il vous remue, il vous laisse sans voix, il vous rince. À vous fermer le roman, vous êtes totalement rincé parce qu'il propose à chaque fois des romans assez féroces et cyniques. Mais ce que j'aime, c'est aussi qu'il a un talent absolument fou pour sonder les aspects les plus sombres de l'âme humaine. Et voilà, je veux dire, il plante à chaque fois des histoires. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas cet auteur, précipitez-vous sur ce livre. Ou alors, si vous le connaissez et que vous avez aimé Sequan Island, vous allez absolument adorer ce nouveau roman qu'il nous propose. Donc La jeune fille et la mère. Aux éditions Gallmeister, donc de David Van.
Encore un bon cru des éditions Gallmeister.
Ah, toujours, oui, toujours, oui, toujours.
Christelle.
Alors, on continue et on continue comme la semaine dernière avec la présentation des autrices, auteurs invités pour le premier salon du livre de Saint-Gaudens, vous savez, ouais. Qui se tiendra maintenant dans un tout petit peu plus de 2 semaines. Hein, donc, le compte à rebours est en marche. La semaine dernière, moi, j'avais parlé de Céline Minard, donc qui est invitée à ce salon. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de Marine Rouche avec son remarquable essai qui s'appelle « Chère Simone de Beauvoir, vie et voix de femmes ordinaires », entre guillemets, « Correspondance croisée 1958-1986 ». Le tout chez Flammarion. Donc, Marine Rouche, invitée par l'Indépendante pour ce premier salon. Marine Rouche, qui est une brillante universitaire, historienne des féminismes. Et comme je le disais, avec cet essai, un essai vraiment remarquable, alors tant par le travail réalisé, puisque ce sont des milliers de lettres qui ont été recensées, triées, lues, analysées par Marine Rouche, que par le résultat, puisque Marine Rouche nous présente une Simone de Beauvoir au travers en fait des courriers reçus et envoyé. Parce que toute sa vie, figurez-vous, elle a reçu des milliers de lettres et elle y a répondu. On peut parler vraiment d'une correspondance très soutenue, notamment à partir de 1950. Mais c'est vrai que beaucoup d'intellectuels de cette époque ont nourri des correspondances qui aujourd'hui d'ailleurs pour certaines d'entre elles sont publiées et qui sont toutes assez remarquables. Alors dans cet essai, Marine Rouche a fait le choix donc de reproduire les lettres de cinq femmes qui nous sont présentées. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que avec ces cinq femmes, ces cinq portraits, quelque part, c'est un portrait intime de la France d'après-guerre que nous révèle Marine Rouche, puisque ces cinq femmes confient leur quotidien d'un mariage parfois décevant, des carcans de la société de l'époque, des attentes suscitées par une liaison, des difficultés de la maternité, des engagements politiques, associatifs ou autres. Et ce qui est vraiment très intéressant et touchant, c'est que ces cinq femmes s'adressent véritablement à Simone de Beauvoir comme à une amie. Alors, il y a l'américaine Margaret Blossom. D'ailleurs, Marine, je pense, nous en parlera durant le salon. Et nous aurons d'ailleurs aussi un livre des écrits et des lettres de Margaret Blossom. Mais il y a aussi Mireille, Colette, Claire et Huguette. Et toutes sont extrêmement touchantes dans la sincérité de ce qu'elles écrivent à de Beauvoir. Donc, comme je disais, tout cela donne vraiment une correspondance intime et politique. Et elle nous montre une Simone de Beauvoir qui, tantôt, donne des conseils à certaines et parfois les accompagne même dans des projets de vie. Et vous verrez, en fait, c'est pour certaines de ces correspondances, ça a duré presque 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Donc c'est vraiment, encore une fois, vraiment passionnant, puisque c'est la France des 30 Glorieuses, 1958-1986, vue du côté de ces portraits de femmes qui se découvrent, se livrent et parfois s'émancipent. Donc vraiment un essai très très intéressant, très pertinent, et eh bien vous aurez l'occasion d'échanger avec Marine Rouche, puisqu'elle sera présente pour ce salon, et nous ferons également avec elle on lui donnera une carte blanche pour aussi voilà, nous parler de son travail, celui-ci, parce que c'est un travail énorme qu'elle a réalisé, mais aussi de travaux récents autour du post-colonialisme. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à venir au Cube les 29 et 30 novembre prochains. La librairie L'Indépendante y sera présente avec ses autrices et auteurs invités.
Merci Christelle. Sylvain.
Alors, bah, autre auteur invité donc à ce salon, et nous en sommes très très heureux, nous avons le plaisir d'accueillir François-Henri Soulier, alors qu'on avait déjà accueilli à la librairie et qui est un auteur que l'on aime beaucoup. Alors beaucoup de lecteurs et lectrices le connaissent bien entendu, mais pour le présenter très rapidement, François-Henri Soulier, c'est un homme de théâtre hein, qui a été acteur et metteur en scène et qui a consacré une grande partie de sa carrière au théâtre. Mais il écrit également depuis quelques années, une décennie, des romans et notamment des romans historiques. Alors là, il revient avec un roman là qui est vraiment sorti à l'automne et qui est une nouvelle fois très original. Il aime bien nous surprendre, hein, François-Henri Soulier. Et là, il nous surprend parce que il revient avec un roman qui s'appelle Une citadelle en enfer et qui est ni plus ni moins un roman dont vous êtes le héros, puisqu'il dit François-Henri Soulier et vous. Et le sous-titre, c'est 15 000 morts, un meurtre, serez-vous le résoudre? Parce que dans ce roman, figurez-vous, vous êtes à Montauban, la ville où il vit d'ailleurs, en octobre 1621, donc on est en pleine guerre de religion entre les protestants et les catholiques, et au tout début du roman, on trouve le cadavre d'une femme plutôt richement vêtue, avec une robe riche, et donc il va falloir élucider ce meurtre au milieu d'autres meurtres, puisqu'on est vraiment en pleine guerre de religion, et il y a des centaines de milliers de meurtres. Voilà, et donc c'est vraiment un livre où vous menez l'enquête, alors il faut prendre des notes, il faut être attentif, vous avez plusieurs options, vous prenez une option peut vous emmener vers quelque chose de... Voilà, donc c'est vraiment très très ludique, et on apprend plein de choses en histoire, comme souvent avec les romans de François-Henri Soulier. Alors, pour le présenter brièvement, auparavant, il nous avait emmené un autre roman passionnant que j'avais beaucoup aimé, Les Pirates de Dieu. Donc là, on était au 4e siècle après Jésus-Christ, à Byzance, un empereur particulièrement cruel, converti au christianisme, envoie sa famille non moins cruelle et non moins inquiétante pour mener une enquête à Jérusalem parce qu'une série de meurtres ont touché la communauté chrétienne et des chrétiens et il veut savoir ce qu'il en est. Donc ils vont se lancer dans une enquête et dans un voyage en bateau entre Byzance et Jérusalem pour voir ce qu'il en est. Auparavant, et son œuvre est vraiment très riche, François-Henri Soulier parlera très certainement aux lecteurs et lectrices qui viendront au salon de sa trilogie qui se passe en Occitanie, qui est à savoir Angelus, Magnificat et Requiem. Donc là, nous sommes au XIIe siècle, en plein guerre contre les Cathares, croisade contre les Cathares, et avec vraiment une histoire très riche, on découvre une personne, une femme hein, de pouvoir à Narbonne, mais aussi des tailleurs de pierre dans un milieu aussi d'abbaye et de tailleurs de pierre. Bref, c'est passionnant, ça se lit vraiment, et c'est toujours très documenté, d'où l'intérêt effectivement des romans de François-Henri Soulier. C'est-à-dire qu'à la fois vous avez une histoire, une intrigue, ça, il a des talents de conteur absolument incroyables, mais en même temps c'est historiquement étayé, sérieux. Il nous avait expliqué, il l'expliquera peut-être parce qu'il participera à une table ronde également, il fait vérifier ses romans par des historiens parce qu'il veut vraiment que tout ce qu'il écrit soit plausible et soit avéré historiquement. Et donc, il a eu notamment, pour cette trilogie excellente, un prix, hein, le prix Historia et le prix France Bleu Grand Détective. Hein. Donc, il a eu de nombreux prix. Et auparavant également, vraiment, son œuvre est très riche, il a écrit aussi trois livres avec un autre auteur qui s'appelle Thierry Bourcy, qui sont aux éditions 10-18. Là, on est au XVIe siècle et vous êtes... Alors, ça s'appelle Le songe de l'astronome, La conspiration du globe et ils ont tué Ravaillac. Dans un cas, vous êtes vraiment dans une enquête un peu scientifique autour du scientifique Tycho Brahe. Ensuite, la conspiration du globe, on est plutôt dans le monde du théâtre, autour de Hamlet et autour d'un théâtre. Et puis, ils ont tué Ravaillac. Le titre se suffit à lui-même. On est quelques années après le meurtre de Henri IV. Et donc, voilà, on mène une enquête. Voilà, donc on est vraiment très, très heureux d'accueillir François-Henri Soulier sur ce salon, donc qui se tiendra les 29 et 30 novembre. Et vraiment, pour celles et ceux qui le connaissent, ça sera l'occasion peut-être de découvrir son dernier roman qui est éminemment intéressant et très très original, et puis pour d'autres peut-être de découvrir. Et donc vraiment là c'est une chance pour les lectrices et lecteurs, parce que vraiment ce sont des livres qui sont de très grande valeur et qu'on aime beaucoup, parce que voilà, à la fois très romanesque et à la fois vous apprenez des choses, et encore une fois un talent de conteur que moi j'aime énormément et que j'admire énormément.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Merci Christelle.
Merci Eric.
Et je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'Indépendante à Saint-Gaudens.